Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et on va vous parler évidemment comme toujours de tech. On va vous résumer toute l'actualité de la semaine dernière de manière intéressante et amusante j'espère. Notre but est de vous informer autant, enfin peut-être un petit peu plus que de vous distraire, mais en tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On va vous parler de rumeurs Apple évidemment, une fois de temps en temps il faut bien s'adonner à l'exercice. On va aussi vous parler d'un algorithme qui est à la fois propice à des calembours de qualité et un petit peu inquiétant pour l'avenir de la démocratie et de nos sociétés. Donc bon voilà, on est à deux extrêmes. Et puis on aura aussi plein d'autres news sur la nouvelle directive sur le droit d'auteur, sur la Chine encore un petit peu, on aura des choses dont on pourra vous parler, etc., etc. Et on va, pour m'aider à parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Pérignon qui nous rejoint, qui a en fait sa double tête de iPhone.fr et de Mobile Addict, la chaîne YouTube. Comment ça va, monsieur e-rumeur?
Ben enchanté, je suis très content d'être là, il y a pas mal de choses
enchanté, on se connaît, on se connaît depuis très longtemps Maxime, ouais, il faut pas dire enchanté.
Ça fait, je crois que ça remonte à...
À l'époque d'Azeroth.fr je crois.
2007 je crois.
Ouais, quelque chose comme ça, oui.
La première fois que c'était rencontré, ça devait être une BlizzCon à Anaheim.
Quelque chose comme ça, certainement, ouais. Donc non, mais tu dis enchanté aux auditeurs qui se souviennent peut-être pas que tu as déjà été dans l'émission il y a un petit moment.
C'était la dernière fois que j'étais venu, je crois que c'était pour parler de l'annonce de l'iPhone 10, je crois. C'était après la keynote de l'iPhone 10.
Ouais, ça devait être ça. Donc c'est un plaisir. Un plaisir de te retrouver justement parce qu'il y a plein de rumeurs Apple et des sujets assez intéressants dans ces rumeurs qui ne sont pas que des gadgets, mais aussi la possibilité d'avoir un... Bah, tu sais quoi ? On va se lancer tout de suite. Je vais expliquer tout ça immédiatement. On a des rumeurs selon lesquelles Apple tiendrait un event pour présenter ses nouveautés le 25 mars prochain. Et ça serait un event un petit peu particulier parce que il risque de ne pas y avoir beaucoup de matériel, encore que les dernières rumeurs commencent à venir un petit peu contredire ces rumeurs-ci qui selon lesquelles l'event serait consacré uniquement aux services, aux nouveaux services qu'il voudrait proposer. On se souvient que le ralentissement des ventes de matériel fait qu'Apple semble vouloir se diriger vers plus de services pour complémenter ses revenus qui, faut les comprendre, hein, les pauvres, les revenus sont pas si importants que ça du côté d'Apple. Et donc, il y aurait d'une part le fameux service de vidéo à la demande, le Netflix d'Apple, et d'autre part, un service de qui serait une sorte d'abonnement à la presse qui viendrait faire une version payante de Apple News, qui, rappelons-le, n'est pas encore vraiment disponible chez nous en France, et qui est donc un service qui permet de naviguer dans toute la presse, mais à la sauce Apple. Il y a d'autres choses au niveau matériel. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Maxime ? Est-ce qu'on évacue les choses matérielles d'abord ? Et puis après, on parle de cette question de... Pour moi, la question la plus importante, c'est celle de la presse, de l'abonnement à la presse, parce qu'il y a plein de questions qui viennent avec. Ou est-ce qu'on parle d'abord de ça et puis ensuite on fait les trucs fun, genre les nouveaux MacBooks, les nouveaux moniteurs ?
Non, on peut parler de l'événement un peu, parce que c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à un événement matériel en début d'année, avec tout pas mal de nouveautés. Finalement, il semble qu'on s'oriente plutôt vers un event qui soit focalisé sur les services. Alors c'est vrai que c'est un peu l'année des services pour Apple, puisqu'ils ont prévu quand même de dévoiler deux, voire trois nouveaux services cette année. Donc je pense qu'ils vont en annoncer la couleur principalement à cet événement là, le 25 mars prochain. Et après, c'est pas impossible que pendant cet événement, quand même, il y ait des annonces matérielles, puisqu'on a déjà vu dans le passé qu'ils ont fait des conférences avec un mélange d'annonces matérielles et logicielles.
Ça peut arriver, ouais. C'est vrai. Bah, justement, le gros point de focus, ça sera donc les services. On a d'une part quelques petits trucs à dire peut-être sur le service vidéo. On a vu qu'il y aurait certainement des stars d'Hollywood qui seraient invitées à cet event, dont
ça,
notamment les personnes.
Ouais,
les personnes avec qui ils travaillent pour produire de la vidéo pour leur service d'abonnement à la demande. Est-ce que tu crois que Apple peut vraiment fournir un service avec suffisamment de contenu pour venir faire concurrence à Netflix et d'autres?
Je pense que ça va être quand même compliqué pour eux parce qu'ils ont mis 1 milliard sur la table pour acheter tout ce contenu, en tout cas exclusif pour Apple. Et bon, 1 milliard, c'est pas mal, mais ça reste quand même bien en dessous de Netflix qui dépense, je sais plus, plus de 10 milliards maintenant par an en production de contenu. Et déjà, il faut oublier que Netflix, ça ne fera pas du tout partie de cette offre. D'ailleurs, ils ont retiré il n'y a pas très longtemps leur offre d'abonnement via l'application iOS pour ne plus verser une commission à Apple. Donc, ce n'est pas pour être intégré à une nouvelle offre de contenu d'Apple.
Ouais. En plus, Netflix a l'avantage d'avoir maintenant, vu qu'ils y sont arrivés très très tôt sur ce type d'offre, ils ont un backlog et un back catalogue plutôt, donc une quantité de séries déjà produites qui est très importante. Ça prend du temps à produire, bien sûr. On peut imaginer qu'Apple achètera du contenu à d'autres producteurs ou du contenu, là encore, de back catalogue, de trucs qui sont déjà passés ailleurs et des séries un petit peu plus anciennes pour peupler le service. Là où ça pourrait peut-être être intéressant pour Apple. Bon, d'une part,
J'ai une idée, je pense. J'ai une idée pour leur service. Je pense qu'ils ne cherchent pas vraiment à concurrencer Netflix, mais plutôt à créer un espèce de Molotov en version américaine, en tout cas dans un premier temps, pour en tout cas le territoire américain où ils aimeraient avoir comme ça une plateforme où on puisse s'abonner et regarder tous les contenus TV proposés par les chaînes depuis une seule et même application, un peu comme ferait Molotov en France.
Ah, c'est un petit peu une extension de leur idée d'application TV, justement. Ouais,
d'ailleurs,
effectivement, ça
Molotov, quand c'était sorti, ils l'ont énormément mis en avant sur l'App Store et plusieurs fois, parce qu'ils aimaient beaucoup l'idée. Ils rêvaient en fait de cette idée pour le marché américain.
Donc oui, ça serait peut-être un moyen de simplifier les choses. Et c'est vrai que l'une des grandes forces d'Apple, c'est de simplifier les choses. Et puis, un autre aspect auquel je pense, c'est que, mine de rien, oui, avoir une grosse quantité de séries, ça peut peut-être être important, mais si on a une série phare, ça peut suffire à convaincre les gens, au moins sur une courte période. Et donc, il suffit d'avoir une série phare tous les 3 mois, et ça peut être suffisant. Au départ, en tout cas, Netflix, les gens avaient pris l'abonnement spécifiquement pour House of Cards, par exemple. Beaucoup de gens ont fait ça, même s'il y avait d'autres choses à voir aussi. Bon, je pense que beaucoup de gens l'auraient pris rien que pour House of Cards. Je dis rien que, j'exagère un petit peu, mais s'il y a le reste est moins important. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié à cet autre service dont on va parler, donc d'abonnement à la presse, c'est que s'ils ont 3-4 services différents, on parlait d'un service pour le jeu vidéo qui est en négociation, en discussion, donc il risque de ne pas arriver tout de suite, mais s'il y a 3-4 services différents et un abonnement à Apple qui est disponible pour moins cher que la somme de tous les services, ça devient une sorte d'affaire à la Amazon Prime où on se dit bon bah oui d'accord, j'ai pas forcément besoin de telle ou telle partie du truc, mais je vais payer mes je sais pas 15-20 euros par mois et j'ai accès du tout à absolument tout. Et donc, on pourrait revenir sur cette idée, mais parlons maintenant du gros morceau, selon moi, qui est le morceau le plus intéressant dans ces annonces que risque de faire Apple. C'est donc le service de presse, qui est une sorte de retravail de Texture, une application qu'ils avaient achetée il y a quelques mois de ça, et qui donc transformerait l'application Apple News, qui aujourd'hui réunit des articles de presse divers, avec un abonnement, et il demande aux personnes qui participent à ce service, aux sociétés qui participent à ce service, donc au titre de presse, donc il leur demanderait, on ne connaît pas les détails de l'implémentation, mais il leur demanderait d'être présent sur le service, bien sûr, et il ne garderait que 50% des revenus. Les titres de presse ne garderaient que... Oui, je parle des titres de presse. Évidemment, pour Apple, c'est Apple garderait une somme monumentale de 50% des revenus. Les titres de presse n'auraient pas accès aux données des clients quand ils passent par l'application Apple News. Enfin, ils ne gardent que 50% des revenus et en plus... Il est assez compliqué d'imaginer que ça représentera une grosse somme par consultation, parce que 50% de l'abonnement, imaginons qu'il soit à 10 euros ou 10 dollars, parce que c'est un petit peu le standard dans cette industrie d'abonnement. Ouais. Les 50% vont à Apple, 50% restants sont divisés entre tous les articles consultés. On peut imaginer que pour quelqu'un qui consulte un petit peu beaucoup, entre guillemets, ça finit par laisser pas grand-chose. Est-ce que c'est, vu de loin comme ça, ça peut sembler être un petit peu, je ne sais pas, ça, une mauvaise affaire pour la presse au final. Toi, tu connais un tout petit peu quand même le milieu de la publication sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette offre d'abonnement ?
Ben, au début, je pense qu'il y avait pas mal de réticences, puis finalement, je sais pas, Apple essaye de les convaincre en leur faisant croire, en leur disant que ça va leur ramener beaucoup plus d'abonnés que s'ils n'étaient tout seuls de leur côté. Mais après, c'est la formule de rémunération, les 50% restants, je crois que c'est au temps passé par les lecteurs sur un article. Mmh. Donc ça va, si jamais il se lance dans cette aventure, ça va, je pense qu'on va atterrir sur des, en tout cas pour les médias qui vont participer à cette offre, ils vont aller vers des articles plutôt longs, puisque c'est en fonction du temps passé qu'ils vont être rémunérés via l'offre d'Apple.
C'est pas bête ça, c'est un moyen effectivement d'encourager le contenu de qualité plus que la quantité de publications. C'est assez malin comme système.
Après, faut voir parce que ça peut y avoir des dérives, ça peut être, enfin, si c'est trop long mais que c'est pas vraiment utile ou que ça apporte pas de valeur ajoutée au lecteur, c'est pas, faut voir.
Bah, je crois que du coup les gens liront pas, si c'est pas intéressant ils s'arrêtent de lire en plein milieu, donc c'est pas bête cette idée de temps passé. Je savais pas, tu me l'apprends, et ça me paraît assez intelligent comme ça à vue de nez, comme moyen d'encourager la qualité, le journalisme de qualité. En tout cas c'est un facteur qui contribue. Je crois que Un autre élément, c'est que là où Apple a toujours fait très très fort, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est dans la simplification des offres. Et en implémentant, on se souvient que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font en fait avec tous leurs produits. Et on pourrait argumenter du fait qu'ils le faisaient à l'époque de Steve Jobs et ils le font peut-être moins maintenant, mais... Dans l'histoire d'Apple, tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'était la simplification de formules ou d'idées qui existaient déjà par ailleurs. Ils l'ont fait l'une des choses les plus notables en dehors de l'iPhone, parce que les téléphones tactiles existaient déjà, mais dans l'industrie de la musique, ils ont complètement révolutionné l'industrie de la musique avec la simplification du téléchargement de MP3. Et ils ont influencé toute cette industrie et transformé toute cette industrie. J'imagine qu'ils vont faire une référence à ça lors de cet event. Et donc, le fait de toucher plus de gens grâce à cet abonnement, ça pourrait être cohérent. C'est-à-dire que si moi, je suis de mon côté tout seul, et je suis sûr que les publications de ce type auront quelque chose à dire, si je suis Le Monde ou Le Figaro tout seul et que j'ai un abonnement, je touche un certain nombre de gens. Et c'est quand même intéressant, mais si je suis chez Apple, je peux toucher 10, 20, 100 fois plus de gens. La question c'est, est-ce que cet abonnement va me rapporter 10, 20, 100 fois plus d'argent, ou enfin au moins autant, si ça va rapporter 100 fois plus par personne, pour que ça revienne au même au final, ou est-ce que justement ce type d'abonnement va... faire que les gens vont plus vouloir s'abonner individuellement au Monde ou au Figaro. Ça, je sais pas. Est-ce que toi, tu as une vision sur la manière dont ça peut... Ou est-ce que les deux peuvent coexister? Je sais pas.
Les deux peuvent coexister. Enfin, je pense que oui, les deux peuvent coexister. Je pense qu'il y en a pas mal quand même qui vont se lancer parce que, bon, Apple News en France, de toute façon, on l'a pas, c'est pas disponible. On a juste le widget Apple News sur l'iPhone. Mmh. Qui pour le coup d'ailleurs rapporte énormément, énormément de trafic pour les médias qui sont sélectionnés par l'algorithme d'Apple.
Ah oui?
Je crois que, ouais, à titre indicatif, Marianne, le journal Marianne avait été pendant un ou deux ans, tu es sélectionné par l'algorithme de YouTube dans les 20 ou 25 médias qui sont mis en avant
d'Apple,
via ce widget.
D'Apple, tu as dit de YouTube.
Ah, j'ai dit YouTube, pardon. Ouais.
Des formations professionnelles.
C'est ça. Et à un moment, je pense que c'était en 2017 ou 2018, ils sont fait, enfin pas éjectés, mais ils étaient plus choisis par l'algorithme d'Apple et ils ont vu une chute des revenus et de trafic de l'ordre de 33% quand même.
Il n'est pas impossible que cette application News, justement, de la même manière, puisse donner de la visibilité et amener du trafic, qui est si important, comme tu le notes, à la publication aussi. Et peut-être que du coup, en plus du fait de payer, parce que ce n'est pas juste on vous paye en visibilité, ça y est, bravo, peut-être qu'il pourrait y avoir, par exemple, certains articles. Je ne sais pas quels sont les codes.
Ce que je voulais dire, c'est que cette application, en plus, elle sera comment incluse par défaut dans tous les iPhones, iPads et tout. Donc, ça fait quand même une source potentielle de lecteurs assez énorme pour toute cette presse.
Ouais, et des gens qui n'auraient peut-être pas été, pas été touchés par ou atteints par ces publications. Là, je regarde sur le widget. Pour ceux qui ne savent pas, le widget News en France, c'est quand on swipe vers la gauche, il y a un petit widget News qui s'affiche. Et en l'occurrence, maintenant, il y a dans les publications qui s'affichent, il y a France TV Info, 20 minutes, lemonde.fr et huffingtonpost.fr. Donc, il y a des grands titres de presse. Et c'est vrai qu'Apple est attaché à cette idée d'avoir surtout des grands titres de presse. On peut aussi se dire, mais 50%, c'est beaucoup trop, et c'est possible, mais il faut... Enfin, oui, moi, je pense que ça fait quand même beaucoup. On verra s'ils n'ont pas des deals particuliers avec certains des gros qui ne veulent pas, justement, endommager leur abonnement avec cet abonnement, leur abonnement personnel ou pour le titre de presse avec cet abonnement-là. Mais il faut aussi dire que Apple fait beaucoup plus que simplement avec l'App Store ou avec d'autres types de services. Ils ont quand même l'application qui est développée, ils ont la facturation, ils ont tout un tas de choses. Ils gèrent l'écosystème. Mais bon, je ne sais pas si ça vaut 50%, quoi.
Non, ça me paraît aussi énorme. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Si c'est par exemple en France, ils vont accepter cette tranche de 50% parce que c'est vraiment beaucoup quand même.
Ouais,
je m'attendais plutôt à une... comment une commission genre similaire à l'App Store du
30-70% classique, ouais. Ouais. Bon, bah on verra, ça c'est ce qui risque d'être annoncé en tout cas, on en saura plus à la fin du mois de mars. Au niveau matériel, est-ce que tu pourrais nous détailler les dernières rumeurs de notre ami Ming-Chi Kuo, qui est l'analyste le plus fiable et qui annonce des nouveautés pour cette année du côté d'Apple?
Bon, je peux. Alors, on va partir du produit un peu phare d'Apple, l'iPhone. Bon, il y aurait toujours trois modèles avec les mêmes tailles que la génération actuelle. Ils auraient le même design. Ce qui changerait pas, il n'y aurait toujours pas de port USB-C. On garderait le port Lightning. Il y a aussi, il confirmerait, soit selon ses sources, il y aurait aussi un triple capteur photo qui pourrait être sur le prochain modèle en version Max.
Donc le plus grand uniquement, il ne serait pas sur les autres. Ouais donc ça c'est pour les iPhones. Ouais. T'as vu le MacBook Pro qui arriverait enfin?
Ouais, très curieux, le MacBook... Ah, tu veux dire le Mac Pro ou le MacBook
Pro? Ah, pardon, oui, non, t'as raison. Il y a le MacBook Pro qui arrive enfin, qui serait le fameux Mac Pro modulable. C'est fou, on pourrait mettre et enlever des cartes. Et puis il y a des changements pour le design du MacBook Pro également.
Juste, ouais, pour un modèle qui aura une nouvelle taille d'écran qui va rappeler un peu l'ancienne taille, en fait. Parce que ça, c'est ils annoncent, enfin, Ming-Chi Kuo parle d'un MacBook Pro avec un écran de 16 à 16,5 pouces et un tout nouveau design. Donc, je sais pas, je suis assez curieux de voir. Ça m'étonnerait pas que ça soit peut-être un MacBook Pro de gamer ou quelque chose comme ça.
Peut-être. Oui, possible. Bah, disons que pour trouver les jeux ensuite, ça sera une autre histoire, mais c'est peut-être un nouveau design de la gamme MacBook Pro qui arriverait par le grand modèle et qui se répercuterait ensuite peut-être l'année prochaine sur les autres modèles.
Je pense qu'il va essayer aussi de corriger les problèmes qu'ont rencontrés les derniers MacBook Pro, surtout avec le clavier ou d'autres choses.
À voir, oui, s'ils ont une nouvelle version du clavier... papillon là qui a effectivement des soucis.
J'ai été deux ou trois fois pour le faire réparer ce clavier déjà en Apple Store. Ouais.
Moi j'ai eu de la chance, le mien a tenu, mais c'est vrai qu'à un moment la touche espace était coincée Et ça a duré quelques jours. Il fallait que j'insiste pour l'appuyer. Pour
des fois, il faut juste essouffler un bon coup en fait, dans
exactement.
Les couches et normalement, ça remarche.
Exactement. Et ça a marché, mais il y a plein de gens pour qui ça ne marche pas. Et... Enfin bon, bref. Le problème qui... Mais ce problème-là a été corrigé. L'autre problème, c'est que on a très, très peu de profondeur sur les touches et donc, ce n'est pas très agréable. Mais je ne sais pas, ils veulent tellement de la finesse dans leurs appareils que je ne sais pas s'ils vont changer ça. Ils ont aussi un nouveau moniteur qui va être annoncé visiblement, un moniteur de plus de 31 pouces, donc un moniteur 6K, assez fou, et un nouvel iPad mini qui arriverait en 2019. Là, c'est encore une fois juste un changement de l'intérieur de l'iPad.
Ouais, voilà, c'est vraiment, il n'y a rien de nouveau à part peut-être les composants à l'intérieur.
C'est ça.
Et un nouvel iPad aussi, le successeur de l'iPad 2018, quoi, une version améliorée qui aurait peut-être des bordures un petit peu plus fines et qui passerait, je crois, à du 10,1 pouces, mais toujours avec le Touch ID et un processeur plus puissant à l'intérieur.
Ouais, donc c'est un peu l'équivalent de l'iPad Pro, quoi, mais en version non pro, quoi.
C'est ça.
Donc voilà pour les nouveautés matérielles d'Apple. Il n'y a rien de complètement exceptionnel. Vraiment, le truc intéressant du côté d'Apple, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est cette histoire de service, quoi. Et puis, entre parenthèses...
Je parlais, il y a quand même deux autres produits. Il y avait une nouveauté dont Ming-Chu Kuo parlait sur les iPhones qui pourrait avoir la recharge inversée, en fait.
Ah oui,
c'est-à-dire
t'as raison.
Que tu pourras normalement, tu sais, il y aura normalement un boîtier de rechargement sans fil pour les AirPods qui devrait débarquer cette année. Et en fait, tu pourras recharger en sans fil en posant un autre iPhone ou un appareil qui se recharge en sans fil sur l'iPhone pour le recharger en utilisant la batterie de l'iPhone.
Ouais, c'est un truc qui avait déjà été montré ou en rumeur chez Samsung, je crois, ou il y a un autre constructeur.
Oui, je crois qu'il y a un ou deux constructeurs qui proposent déjà un modèle comme ça où tu peux recharger un autre smartphone en le posant l'un sur l'autre, quoi.
C'est ça. Et bon, avec un smartphone, ça a peut-être pas forcément, ça a pas beaucoup de sens. Mais avec des AirPods, ce nouveau modèle, d'ailleurs, il y a des rumeurs selon lesquelles les AirPods noirs seraient aussi en cours de fabrication et qui serait un nouveau modèle qui aurait quelques nouveautés. Moi étant, comme je le dis depuis, avant que les AirPods soient cool, grand fan des AirPods, et les miens, la batterie commençant à être un petit peu usée, contre.
Je les ai achetés quand ils sont sortis, et franchement, c'est un super produit. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à être aussi satisfait des AirPods que je... J'étais même plus satisfait. Enfin, j'ai acheté mon iPhone 7 Plus et les AirPods en même temps et j'étais plus satisfait des AirPods que
de l'iPhone.
Mais
c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est le sentiment qu'ont eu beaucoup de gens et c'est pour ça qu'on voit maintenant des AirPods un petit peu partout, quoi. Donc voilà du côté d'Apple, on a quelques petites rumeurs d'autres constructeurs aussi. Google, il semblerait, soit en train de développer un smartphone moins cher que l'iPhone XR. C'est donc une opportunité de capitaliser sur les ventes décevantes de cette gamme d'appareils Apple. Il serait possible qu'il soit vendu dès 2019. Quand on dit moins cher, on est quand même à $750 aux États-Unis, donc on imagine 750 €. C'est pas non plus un téléphone bon marché, hein. Et puis Samsung qui a révélé toutes les annonces qui vont être faites là dans un ou deux jours avec une app qui a c'était une app
ça,
l'app de wearables, t'as pas vu? En fait, il y a l'app de wearables de Samsung qui a la liste des wearables et donc là ils avaient une liste des Galaxy Buds, donc l'équivalent des AirPods chez Samsung, la nouvelle Galaxy Watch Active et les Galaxy Fit et Fit E, c'est des comme les Fitbit en fait,
des bracelets suivis d'activité.
Voilà, exactement. Et ils ont tous été révélés par la mise à jour de l'application Samsung. Donc un petit fail de la part de Samsung à point.
Peut-être
à moins que ça ne soit volontaire. C'est
peut-être
ça exactement. Ouais, c'est possible. Mais bon, de tout cela, de manière cohérente avec ce qu'on disait à l'instant, je dirais que les Galaxy Buds seraient peut-être les plus intéressants. À mon avis. C'est ceux-là qui se rechargent,
ouais.
Possiblement. Ouais.
Je crois qu'ils se rechargent même sur... J'avais vu une image ou une rumeur passée qui se rechargerait aussi en le posant sur le smartphone.
Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est à ceux-là que je pensais. Je crois qu'on avait parlé la semaine dernière. Et c'est la semaine dernière ou celle d'avant. Et c'est à ceux-là que je pensais, je crois. Donc voilà pour les nouveautés du côté d'Apple et des autres constructeurs. Maintenant, on va parler d'un sujet bien plus grave et intéressant. OpenAI, qui est une organisation qui développe de l'intelligence artificielle, a décidé de ne pas publier ses travaux sur la recherche d'un algorithme ou de ses travaux et ses données sur pour un algorithme qui s'appelle GPT-2. Donc, allez-y, laissez vos calembours se déverser. En fait, c'est un algorithme qui génère du texte de manière algorithmique, évidemment, et qui peut écrire, traduire, résumer les textes. Et du coup, j'ai moi fait quelque chose d'assez amusant. J'ai résumé le texte dans dans les notes de l'émission et je me suis rendu compte en le résumant que si ça se trouve l'algorithme lui-même ferait quelque chose de beaucoup plus efficace et donc je l'ai posté au Patreon sur le Patreon du Rendez-vous Tech et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. C'est intéressant de voir s'ils comprennent ou pas de quoi il s'agit. Il y a eu quelques réactions, je vous lirai l'une d'entre elles un petit peu plus tard, mais en attendant je vais vous résumer donc un petit peu ce qui se passe. En fait, cet algorithme n'a pas de compréhension vraiment de ce qu'est le langage. Les algorithmes de deep learning ont souvent cette caractéristique de ne pas comprendre vraiment ce qu'ils font, mais de juste recréer tous recréer les patterns du matériel qu'on leur a fourni. En l'occurrence, il a utilisé une immense quantité de données qui s'appelle, que je retrouve le nom, c'est WebText. Donc, c'est une quantité de texte qui a été extraite du web, tout simplement. Il l'a ingéré, il l'a analysé et il réussit donc à faire du résumé d'articles, de la traduction d'articles. C'est intéressant cet aspect de traduction parce que la raison pour laquelle il y arrive, c'est qu'il se trouve qu'il y avait dans le texte qu'il a ingéré des éléments où il y avait de la traduction. Et c'était pas de la traduction qui était expliquée comme traduction, mais par exemple, l'un des exemples qu'il donne, c'est dans le texte, il y avait par exemple « I'm not the cleverest man in the world, but like they say in French, je ne suis pas un imbécile ». Entre parenthèses, I am not a fool. Donc, je ne suis pas la personne la plus intelligente au monde, mais comme ils disent en français, je suis pas un imbécile. Et donc, c'était des morceaux de texte comme ça. Et de là, il a réussi à comprendre comment traduire du texte. C'est quand même un petit peu fou. Et là où c'est vraiment intéressant pour cet algorithme, c'est que des algorithmes comme DeepMind, les trucs de DeepMind comme AlphaGo peuvent jouer au Go, mais ils ne peuvent pas jouer à d'autres jeux. Ils savent jouer au Go. Là, GPT-2 réussit à faire des choses qui sont très généralisées. Et la comparaison qu'a fait Sébastien Rudder, qui est un chercheur, de ce niveau d'avance dans la création de textes, c'est la comparaison avec les avances qu'on a eues dans la vision informatique, la reconnaissance visuelle, en fait, au début des années 2010. Vous vous souvenez qu'on avait fait un épisode spécial sur le deep learning, on avait beaucoup parlé de ça, sur la reconnaissance visuelle notamment, qui a mené à des travaux comme les voitures autonomes, la reconnaissance faciale, la photographie améliorée par l'intelligence artificielle, quand on l'a sur tous nos appareils aujourd'hui. Et donc, la seule chose pour laquelle ils ont entraîné GPT-2, excusez-moi, c'est de structurer, de créer de la prédiction de texte. Et en simplement créer cette prédiction de texte, de la même manière qu'on peut l'avoir dans d'autres outils, le texte prédictif pour un mot qu'on a sur nos téléphones portables, là encore, ou dans Gmail, il réussit à créer de la prédiction de texte beaucoup plus long. On lui donne une phrase ou on lui pose une question et il peut créer tout un article. Et il n'a pas été créé pour créer un article, il a juste été créé pour prédire du texte. Il y a également d'autres aspects. Il est Il n'est pas encore parfait, c'est-à-dire qu'il réussit, on va dire, donne un chiffre au hasard, il réussit à faire quelque chose de cohérent une fois sur deux. Il y a un exemple, c'est un article de The Verge que j'utilise ici pour comme résumé, qui a fait un petit peu de bruit. Il y a un exemple sur une phrase qui est une petite phrase je crois que ça vient du Seigneur des Anneaux, en tout cas c'est les personnages du Seigneur des Anneaux, la phrase qu'il donne, c'est « Legolas and Gimli advanced on the orcs, raising their weapons and shouting in unison ». Donc, Legolas et Gimli avancent vers les orcs, ils lèvent leurs armes et crient à l'unisson. Et l'algorithme conclut, en fait, l'article avec, pas l'article, mais fait la suite, écrit la suite sur trois paragraphes. Alors, le premier paragraphe, c'est incroyable de justesse. C'est vraiment un truc qui aurait pu être écrit. On aurait beaucoup de mal à le distinguer du vrai texte. Il y a quelques petites erreurs stylistiques, mais rien de grave. Après, par contre, ça commence à se compliquer. Sur les paragraphes suivants, il y a des répétitions qui reviennent plusieurs fois, des mots qui sont répétés. Là, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et régulièrement, généralement, dans le texte généré, on sent ce genre de problème. Et donc, on suspecte qu'il s'agit de problèmes de ce type, que c'est un texte qui a été généré par un ordinateur. Mais dans d'autres cas, assez nombreux pour être importants, eh ben, on ne sent pas cette répétition, le texte est parfaitement normal. Et donc, on arrive à des choses comme, par exemple, la génération d'articles automatiques. On lui a demandé, par exemple, s'il y a un biais par les médias, on lui a demandé à cet algorithme, on lui a dit « les juifs contrôlent les médias ». Et ce qu'il écrit, lui, c'est « ils contrôlent les universités, ils contrôlent l'économie mondiale ». Comment, à travers différents mécanismes, je traduis, à travers différents mécanismes qui sont bien documentés dans le livre « Les Juifs au pouvoir » de Joseph Goebbels, la jeunesse hitlérienne et de nombreux autres membres du parti nazi. Et donc, il l'a écrit simplement parce que ce qu'il avait ingéré lui a suggéré ces réponses-là. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude à voir des algorithmes de ce type faciliter la rédaction de... on revient au terme de fake news, et c'est pour ça que...
De propagande.
Voilà, de propagande, et même d'inonder, en fait, parce que comme c'est automatisé, d'inonder le web et le monde d'énormément de textes crédibles, d'articles, etc., comment dire, si c'est un tout petit peu arrangé, ce qu'on a constaté ces derniers temps, et vous vous souvenez que je vous en ai beaucoup parlé au moment de l'élection américaine et à sa suite, et on en parle aujourd'hui beaucoup, c'est que à force de noyer l'information dans des choses contradictoires, on finit par... Il y a beaucoup de gens qui finissent par lever les mains au ciel et dire « bon, bah écoutez, de toute façon, on ne peut rien comprendre, donc tant pis, et donc je m'en fous ». Et donc, c'est un outil de désinformation très important, et étant donné qu'on a déjà des problèmes aujourd'hui, avec un outil de ce type, Jack Clark, le directeur de Policy, de Policy de OpenAI, a dit « bon, on n'est pas du tout à un niveau où ça pourrait être utilisé de manière systématique, mais nous, on préfère dire, attendons une seconde, mettons pause et réfléchissons-y avant qu'on arrive à ce niveau. Donc, on ne va pas publier les détails de nos travaux de recherche et réfléchissons-y dès maintenant. Et il faut noter aussi que, comme tous les outils, comme toutes les armes du monde, ce genre de choses pourraient être utilisées pour des choses positives également, créer du contenu pour des mondes virtuels, et l'exemple qu'il donne, ou améliorer la qualité des chatbots, ou service client, ou ce genre de choses. Et le fait de pouvoir lire rapidement, résumer, ça peut faire un travail de dégrossissage important. Il y a plein d'utilisations positives, mais ils font quelque chose d'assez intelligent, à mon sens, qui est de s'arrêter un instant et de se demander où ça va avant de continuer à avancer. qui est un petit peu l'antithèse de ce que fait généralement la Silicon Valley. Mais bon, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais c'était un petit peu compliqué à résumer. Maxime, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ? Ça t'inquiète ? Ça t'enthousiasme ? C'est comme d'hab ? Je sais pas.
Je pense qu'il peut y avoir des bonnes utilisations comme de mauvaises utilisations. Bon, on parle de mauvaises utilisations, on peut parler, ça peut être de la propagande, que ça soit pour des dictatures, mais ça peut être aussi pour les élections, par exemple présidentielles. Mais après, je vois aussi des bonnes utilisations. Je vois, par exemple, ça pourrait être utilisé pour un outil d'aide à la rédaction, soit quelque chose qui complète les phrases pour aller plus vite, et après tu fais juste de la relecture pour vérifier que tout est OK.
Ça peut être même dans la même veine, ça peut être du résumé d'article. Si tu as un article hyper long, comme je le disais tout à l'heure, tu peux en avoir un résumé, et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir besoin de lire l'article, mais ça veut dire que tu peux savoir de tous les articles qui sont intéressants, auxquels tu vas donner ton temps en lisant un résumé, et puis ensuite en choisissant lequel tu vas pouvoir aller lire.
Je vois peut-être des utilisations où ça pourrait genre par exemple faciliter par exemple des sous-titrages, tu vois, pour des vidéos YouTube ou des choses comme ça aussi, pour permettre automatiquement de générer des sous-titres et faire en sorte que par exemple tes vidéos soient accessibles du monde entier, puisque ce serait géré automatiquement par une intelligence artificielle.
C'est tellement vaste en fait, ça donne au texte ce qu'on a déjà avec d'autres domaines. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Oh, mais le prédictif, on l'a déjà, les sous-titres automatisés, on les a déjà. » Mais là, en fait, c'est une étape supplémentaire qui fait qu'il peut un petit peu tout faire et on ne l'a pas designé pour une tâche spécifique. Alors, peut-être que ça veut dire qu'il ne sera jamais aussi bon que les autres pour une tâche spécifique et que donc, on ne l'utilisera pas. Mais c'est une première étape de recherche qui pourrait être décisive pour la suite et qui pourrait amener dans toutes ces catégories des avancées vraiment notables. Donc bon, voilà, je ne sais pas s'il y a grand chose de plus à en dire. Je dirais, il y a une remarque d'un des patriotes qui m'a amusé, c'était Tosselen qui disait « Oh là là, ça serait l'inverse, en vrai ça serait super pratique, un logiciel capable de débusquer si un argument est une intox ou vrai, en retrouvant les sources. Par exemple, le monde est dominé par les juifs », criaient certains. Oui, selon The Jews in Power by Joseph Goebbels, mais ça serait faux selon The Matrix par Andy et Larry Warkowski, répondait GPT-2. Effectivement, ça pourrait être intéressant si on peut justement avoir une sorte de guerre des algorithmes peut-être, mais certains qui seront utilisés pour créer cette inondation de contenu, de faux contenu, et puis peut-être certains qui analyseront le contenu et sauront nous dire justement lesquels sont vrais ou sont faux, ou en tout cas nous aider à trier un petit peu cet océan de contenu, et puis à vrai dire, à la limite, peut-être même que le fait qu'il soit vrai ou faux n'est pas si important, mais peut-être qu'il pourrait nous donner ceux qui ont de la valeur ou pas, je ne sais pas. Mais c'était un argument intéressant de la part de Tosselen.
Non, mais c'est intéressant. Ça fait qu'il serait utilisé, il mettait un cas d'utilisation où il serait utilisé des deux côtés, quoi, du bon côté et du mauvais côté, pour se contrer lui-même. Quoi.
Ou d'autres algorithmes qui pourraient faire le truc inverse. Ouais. C'est une vision, je ne sais pas si c'est inquiétante ou pas, mais intéressante de l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous souvenez qu'on avait parlé de ces photos générées de personnes qui n'existaient pas, de visages, c'était simplement des photos. On a les deepfakes qui sont ces vidéos générées à partir de vidéos existantes, mais où on fait dire à quelqu'un une chose qu'il n'a pas dit. Peut-être qu'à terme, les photos de personnes qui n'existent pas pourront être animées de manière à leur faire dire des choses. On a de la vidéo, on a du son aussi, avec les assistants vocaux qui peuvent parler et vocaliser les choses. On a du texte maintenant. On est vraiment de plus en plus en train d'entrer dans un monde où tout peut être...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pas envie de dire faux, j'ai envie de dire artificiel.
Imagine une intelligence artificielle qui combine tous ces différents traits-là. Hein. Par exemple, créer une fausse vidéo avec du texte, des choses et tout ce qui va avec.
Ouais, bah exactement. Ça peut créer un... Enfin, c'est une boîte à outils incroyable pour...
Ouais, c'est intéressant en tout cas.
Ouais.
Et ça fait peur.
Et ça fait un petit peu peur, c'est sûr. Bon, on va pas vous laisser dans cette peur, on va vous amener un petit peu de positivité, avec notamment ce flux RSS accessible dans votre podcast si vous êtes patriote. Ça, c'est un truc que je viens d'activer la semaine dernière. Le flux RSS, je crois que je l'avais évoqué rapidement à l'épisode précédent, mais j'enregistre des éditos régulièrement. Vous savez que j'ai fait la refonte du Patreon cette semaine dernière, et à l'occasion de cette refonte, j'ai activé le flux RSS pour les contenus audio enregistrés, j'ai dit vidéo, je voulais dire audio, les contenus audio enregistrés spécifiquement pour les Patriotes. Donc, si vous êtes Patriote, vous avez désormais accès à un podcast réservé aux Patriotes, qui contient pas les épisodes classiques, hein, bien sûr, mais c'est certaines de mes pensées sur certaines choses. Là, en l'occurrence, sur le dernier édito, j'avais détaillé la manière dont je fais ma veille, sur vraiment en détail comment je fais ma veille, le nombre d'articles que je trie, que je lis, comment je les sélectionne, etc. Et peut-être d'ailleurs que GPT-2 aurait pu m'aider à faire la veille de manière beaucoup plus efficace. Mais donc, les auditeurs qui soutiennent l'émission ont pu l'écouter dans leur app de podcast. C'est très simple, vous allez sur la page de Patreon quand vous êtes logué et vous avez un lien, une URL à rentrer dans votre app de podcast qui est sur la droite de la page. Toutes les apps de podcast, en fait, ont la possibilité d'ajouter une URL. Donc là, c'est tout simple à utiliser et ça vous permet de recevoir ces contenus audio directement sur votre app de podcast. Je pense que c'est assez pratique. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier spécifiquement Richie, Sylvain Béraud, Patrick Montanari, JC Bantreil et Aurélie Ferron pour leur soutien. C'est évidemment quelque chose qui est énormément accepté. Le fait de soutenir l'émission est très important. Et il y a beaucoup d'entre vous qui choisissent de le faire. Si l'émission vous plaît, comme je le dis toujours, vous informe, et ben un petit dollar, deux petits dollars par épisode, c'est énormément apprécié. Et voilà, bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps sur cet aspect. Je voulais surtout vous parler de la partie flux RSS qui est... Ah oui, alors il a un nom, c'est le podcast privé des Patriotes. Voilà, c'est le P3. Podcast privé des Patriotes, j'ai trouvé ça hyper bien brandé. Bon, parlons un petit peu des news et des rumeurs de cette semaine. La directive sur le droit d'auteur est passée, les articles 11 et 13 ont été finalisés et votés. Et du coup, maintenant, bon, il faut que ça passe le Parlement européen. On a déjà détaillé ces articles, je ne vais pas vous en remettre une couche. Mais a priori, donc, ça va être implémenté, le filtre automatique pour toutes les plateformes et... le fait de devoir payer pour tous les extraits, y compris possiblement les liens qui sont liés sur votre page. Si vous liez à quelqu'un d'autre, à une autre page web, ben, vous êtes soumis au droit d'auteur. Bon, on verra comment ça doit être voté par le Parlement, puis implémenté dans les législations locales. Moi, ça m'inquiète et j'en ai déjà parlé auparavant, mais je crois que là... on ne peut plus faire grand-chose, je ne sais pas. Ou on continue à s'en plaindre, mais continue à s'en informer. Tu m'arrêtes s'il y a un sujet spécifiquement qui te
Non, bah après, bon, les directives, c'est entre le texte et l'application, on n'en est pas encore là, mais bon, Je ne sais pas trop comment,
c'est en route,
quel
hein.
impact ça va avoir hein, outre YouTube. Hein, y a d'autres plateformes aussi, des petites plateformes qui pourraient être pénalisées. On va voir.
Tout à fait, ouais. Le seul truc où je me dis peut-être qu'on panique un peu trop, pas pour rien, mais pour un effet qui ne sera pas aussi important, c'est que je me dis quand il y a eu le vote du droit à l'oubli, on s'est dit « Ah, mais ça va changer la nature d'Internet ». En réalité, force est de constater que ça n'a pas changé la nature d'Internet, même si les dérives peuvent être importantes. Mais là, on n'en a pas constaté énormément de massives. Donc, bon, on verra. Oui, je voulais parler de la Chine un tout petit peu parce que j'ai eu la réaction, je crois que j'en parlais également la semaine dernière, mais j'ai eu la réaction de différentes personnes, de différents auditeurs qui me disent « Ah, oh, vous faites du Chine bashing, en fait la Chine c'est pas si mal, chacun son choix ». Oui, bien sûr, dans une certaine mesure, et tout n'est pas noir ou blanc, il y a énormément de choses qui sont impressionnantes en Chine et des choses qui sont pas très reluisantes dans nos pays occidentaux. Mais il y a quand même, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des choses critiquables chez nous que ça veut pas dire que un pays totalitaire est forcément oh, bon, super, c'est quand même sympa la Chine. Il y a des choses à quoi ça peut mener et de manière totalement fortuite, il y a deux sujets qui m'ont interpellé cette semaine à propos de la Chine. Des chercheurs ont trouvé une base de données de 2,5 millions de Ouïghurs, vous savez, c'est cette minorité musulmane persécutée en Chine, persécutée par l'État, où ils ont donc les cartes d'identité et visiblement une des données GPS en temps réel quasiment sur les personnes, ça se fait avec la reconnaissance faciale. Donc ça veut dire que en Chine, il y a l'État qui a organisé un suivi automatique et quasiment en temps réel et une base de données de tous ces de toute cette minorité musulmane ouïghure. Donc après je vous laisse apprécier est-ce que c'est sympa ou pas. Autre sujet, il y a une nouvelle app qui s'appelle Shuixi Guanggo, je suis désolé pour ma prononciation, qui est une app qui est l'app de propagande du Parti communiste chinois. Qui est une sorte d'app un petit peu Snapchatesque où on peut s'envoyer des messages, mais qui est surtout qui a pour but de diffuser la bonne parole de Xi Jinping et du parti à toute la population, dont l'utilisation est obligatoire et qui vous note en fonction de tout ce que vous avez appris. J'ai dit c'est une app de messaging, c'est pas tout à fait ça. On peut s'envoyer des messages, mais il y a surtout des leçons sur la valeur des membres et des cadres du parti et de l'action du gouvernement. Il y a des explications sur les qualités évidemment indiscutables de ce qu'ils font, etc., etc. Et rappelez-vous qu'il y a également le système de crédit social qui a lieu en Chine, et donc vous êtes noté en fonction de plein de critères, dont votre utilisation des réseaux sociaux et de l'informatique, et ça peut vous interdire l'accès au transport ou à ce genre de choses. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus loin, on n'en doute pas. Et donc cette app est devenue évidemment première dans l'App Store en Chine sur les appareils Apple. Quand on est obligé d'utiliser, sinon le parti et le gouvernement sait ce que vous faites, bah on a tendance à la télécharger et à l'utiliser parce que sinon le parti le sait.
Donc sinon, voilà. Tu peux faire baisser ton crédit social, on ne sait jamais.
Exactement, exactement. Et c'est pas que je suis allé chercher des sujets sur la Chine, hein, c'est juste que fortuitement c'est comme ça que ça s'est passé cette semaine. Donc bon. Ok, il y a peut-être un petit peu de Chine bashing, mais il y a aussi des préoccupations légitimes. Ceci dit, le gouvernement anglais a décidé qu'il pouvait mitiguer les risques d'avoir de l'équipement Huawei. Vous savez, c'est une grosse controverse ces derniers temps, de l'équipement Huawei pour ses réseaux 5G. Donc eux, ils ont dit non, ça va en fait, Huawei, c'est pas trop problématique. Après leur étude, il semblerait, hein, c'est une rumeur, donc ça pourrait mettre du plomb dans l'aile à la campagne anti-Huawei des États-Unis. Mais bon, donc comme quoi on essaye d'être objectif dans toutes ces histoires, mais quand on critique la Chine, c'est pas juste parce qu'on n'aime pas la Chine, on aime bien la Chine, ils font plein de choses super bien et ils ont des problèmes qui sont énormes par rapport à nous, mais qu'ils doivent résoudre de manière différente, mais bon, il y a quand même des choses préoccupantes aussi. À propos de choses préoccupantes, est-ce que tu as déjà fait ces tests d'analyse d'ADN, Maxime? Tu connais ces
jamais,
trucs-là?
jamais. Oui, c'est sur des sites qui proposent ces services-là.
Oui, alors ça marche de manière très simple. C'est des sites qui vont te proposer d'analyser ton ADN et de te donner plein d'infos sur ton histoire génétique. Il t'envoie un petit coton à passer dans la bouche, tu mets un peu de salive, tu le renvoies, tu le remets dans le petit pot, tu le renvoies, ils analysent l'ADN et ils font une comparaison statistique sur 1% de ton ADN et ils te disent, alors voilà, vous avez tant d'ancêtres, alors c'est aux États-Unis, mais tant d'ancêtres indiens-américains, vous avez tant d'ethnies de telle et telle partie du monde, etc. Vous avez tant de risques pour développer telle ou telle maladie, ça peut être des choses intéressantes.
Je pense que ça peut être intéressant, ouais. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire pour tester, par curiosité aussi.
Eh ben écoute, toi, comme des millions d'Américains, visiblement, selon une étude récente publiée par le MIT Technology Review, 26 millions de personnes l'ont déjà fait. Il y a quatre sociétés qui font ce type de test. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as donné ça, tu donnes toutes tes données, toutes tes infos sur qui tu es à ces sociétés. Et c'est l'essence même de ce que tu es qui est donnée aux sociétés. Tu ne peux plus jamais le reprendre. Et donc, il y a plein de gens qui sont en train de lever des drapeaux rouges d'avertissement contre ce type de
Mais
pratique.
c'est un service payant ou c'est gratuit et tu donnes tes données en échange? Ça
C'est
fonctionne comme?
payant, mais très très bon marché. C'est genre une
Ouais.
centaine de dollars. Et donc, ça, le coût du test est évidemment beaucoup plus élevé. Mais le truc, c'est que la société qui aura la première base de données, enfin, les sociétés qui auront des bases de données suffisamment importantes pour établir des études statistiques fiables, auront une. C'est un petit peu comme nos données privées qui sont le moteur de l'économie de ce que certains appellent le capitalisme de surveillance aujourd'hui. Eh ben, c'est ça au niveau génétique. Et c'est évidemment. Alors, ils disent qu'ils l'utilisent de manière statistique et que c'est pas des données identifiables pour toi, mais c'est un
Je
petit peu
vois
la
plein de
même chose
dérives
qu'avec.
pour genre de données-là, pour des assurances qui te contactent ou des choses comme ça, en fonction de ton profil génétique, on va dire.
Exactement. Mais ça va même plus loin. Il y a d'une part, des données qui ne sont pas forcément très bien sécurisées. Ça peut être préoccupant. On s'est rendu compte aussi que un des gros acteurs du milieu travaillait régulièrement avec la police pour essayer de résoudre des crimes. Alors ça, évidemment, c'est très positif. Mais personne n'était prévenu que ça pouvait être utilisé dans ce cadre-là. Et on peut imaginer des utilisations beaucoup moins positives de ce genre de choses. Donc,
Du coup, tu m'as refroidi un petit peu là.
en fait, ce qui est préoccupant dans cette histoire, c'est qu'une fois que tu as franchi ce pas, c'est pas comme Google qui va lire tes mails. Bien sûr, Google qui va lire tes mails va avoir plein d'infos sur toi, mais tes mails, tu vas changer, toi, tu vas évoluer, tu vas plus être la même personne. Tes données génétiques, évidemment, elles changent pas. Et tu peux plus revenir en arrière une fois que tu as donné ces données à ces sociétés. Donc, même dans le doute, je dirais, moi, je suis pourtant hyper ouvert, machin, ok, j'utilise tous les trucs de l'Internet et j'échange ma vie privée contre des services. Quand c'est fait d'une manière que je comprends plus ou moins, ok. Mais là, je me dis, peut-être pas, en fait.
Ou alors, il faut s'assurer qu'ils aient une charte de confidentialité des données ou quelque chose comme ça avant de souscrire à leur offre, quoi.
C'est ça, si c'est juste pour avoir des infos sur les risques que tu peux avoir de contracter telle ou telle maladie, évidemment c'est important. Mais la plupart de ces acteurs-là, ils disent, oh, envoyez-nous un petit coton avec votre salive, on vous dira d'où vous venez, et puis vous payez que 100 euros. Donc tu as l'impression d'avoir fait un petit truc sympa pour avoir des infos. Justement, c'est des trucs, et même moi, avant de me rendre compte de ces problèmes, je me disais, ah, ça pourrait être sympa, ou tu l'offres à ta famille, ou tu vois, c'est marrant, c'est un joli petit cadeau de Noël. Mais maintenant qu'on sait exactement, c'est-à-dire que eux, si c'est juste pour ça et que tu sais qu'après ils vont par exemple détruire les échantillons, bon bah ok, pourquoi pas. Mais là, c'est pas du tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, quoi. D'ailleurs, un test d'ADN coûte certainement beaucoup plus cher que les 100 euros qu'ils te font
Je
payer.
pense que
C'est
ça coûte
parce
plus
que
cher que ça, ouais.
ouais. Bon, un autre sujet intéressant, toujours avec l'Angleterre, c'est le rapport qu'ils ont sur Facebook. C'est un comité parlementaire qui a fait une longue étude sur Facebook. Vous vous souvenez qu'ils avaient demandé à Mark Zuckerberg de se présenter devant le comité. À plusieurs reprises, il a refusé. Il a envoyé des exécutifs de sa société. Mais donc, le rapport est vraiment pas gentil. Ils appellent Facebook un gangster numérique qui abuse des données et des lois, qui est contrevenu aux lois. Il recommande des enquêtes sur des procédés anticompétitifs. Alors, il y a tout un tas de trucs. Les trucs que j'ai retenus, c'est qu'il recommande des lois sur la protection des données, qui couvrirait donc les données privées. C'est marrant, il y a beaucoup de choses qui font penser au RGPD. Hein. Des moyens de faire pas des taxes, mais des amendes sur ces sociétés pour les obliger à se conformer aux lois. Il y a des demandes d'audit de l'autorité des marchés sur l'écosystème de la publicité chez Facebook et chez d'autres, et des changements dans la loi sur les campagnes politiques numériques. Et une transparence absolue sur les campagnes politiques. Tout ça me semble assez judicieux. Des trucs où je suis peut-être un petit peu moins convaincu, où j'aurais des questions, c'est l'obligation de se tenir à un code d'éthique qui serait établi par un comité indépendant, et l'obligation pour les outils, les services de médias sociaux, de développer des outils qui font la distinction entre le journalisme de qualité et les sources à faible valeur. Alors là, par contre, on est complètement dans un flou moral complet. Et là, je ne suis pas sûr que ça soit... D'une part, c'est toujours compliqué de filer les clés de la moralité aux sociétés, même si on a vu qu'il y a peut-être des moyens qui peuvent fonctionner parfois. Mais sur la question de distinguer entre la qualité, le journalisme de qualité et le contenu de faible qualité, c'est bon courage. C'est très bien en théorie, mais bon courage pour en faire une implémentation concrète. Je suis sûr, Maxime, que iPhone.fr, par exemple, serait d'office classé dans la catégorie journalisme de qualité, bien sûr.
Sans aucun doute. Je sais pas. Après, oui, c'est compliqué de faire la part des choses entre les différentes sources parce que même sur un même, des fois sur un même journal, la qualité des articles n'est pas égale d'un article à un autre. Donc je sais pas comment ça serait, soit ce serait je sais pas, catégorisé par source, ou je sais pas, mais c'est dodgy comme sujet, on va dire.
C'est compliqué. Mais le truc, c'est que évidemment, en particulier en Angleterre, avec la campagne du Brexit qui a réveillé ces problèmes, ils parlent des fake news. C'est évident. Ils disent pas fake news, mais c'est de ça qu'ils parlent. Et quand tu dis oui, il faut distinguer fake news de journalisme de qualité, personne va être contre. Mais par contre, dans l'implémentation, bonjour. Est-ce que tu vas classer, par exemple, Russia Today, qui est un truc qui s'approche clairement d'un organe de propagande du Kremlin? Tu les classes où? Tu les mets dans les journalistes parce que c'est quand même des journalistes, ils font des articles qui sont recherchés, orientés par la direction du Kremlin. Ils sont un petit peu aux ordres, et aux ordres d'une manière très différente de ce qu'on peut avoir dans les publications, on va dire, soit partisanes, soit avec certaines tendances politiques qu'on peut avoir ailleurs, qui sont elles, par contre, des publications de qualité. Mais voilà, rien qu'en disant ça, je suis sûr qu'il y a certaines personnes dans l'audience qui vont dire « Oh mais attends, Russia Today, non, pas du tout, c'est des gens très bien. » Ou tu vois, ils ont voix au chapitre autant que les autres, ce qui n'est pas forcément faux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas, mais c'est juste pour dire que dire fake news, c'est bien gentil, d'ailleurs ils ne le disent même pas. Mais ensuite, comment tu distingues? Je sais pas. Et dire que les plateformes de réseaux sociaux sont dans l'obligation de développer des outils, c'est un peu tu passes la patate chaude, quoi. Tu dis, oh, vous démerdez, il faut que les choses soient bien. Mais attends, vous voulez dire
quoi ? C'est très compliqué à développer, même un outil comme ça. Soit c'est de l'éditorial, soit c'est une équipe, soit c'est un algorithme. Mais dans les deux cas, il y a des problèmes.
Oui, et non, mais en plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Défini journalisme de qualité. Et déjà, là, on pourra parler, quoi.
Tu peux déjà définir ça, ouais.
Ouais.
C'est le but.
Donc, bon, peut-être qu'ils ont des idées là-dessus. Ils ont un organisme indépendant qui définirait les choses un petit peu mieux, je ne sais pas, mais... Je l'avais mentionné, mais le gouvernement français a fait quelque chose d'intéressant ces derniers temps, ou en tout cas est en train de le faire. Ça vaut le coup d'être noté quand c'est le cas. Mais ils ont travaillé avec Facebook pour faire une sorte d'audit de leurs algorithmes de classification des informations. Et le gouvernement décide si c'est un algorithme qui est acceptable ou pas. Une fois qu'ils l'ont validé, Facebook peut l'utiliser. Et peut-être que ça, c'est un moyen de diviser la responsabilité. J'en avais déjà parlé, hein, mais je le rappelle parce que c'est un moyen auquel je n'avais pas pensé qui pourrait être intéressant, de diviser la responsabilité. Dans la direction, on dit, les représentants de la population disent, donc l'État dit, OK, comme ça, on peut être d'accord que ça fonctionne. Et puis ensuite, l'application est à la charge du réseau social. Et c'est eux qui vont faire les tâches automatisées. Et bon, après, il y aura peut-être des erreurs à vérifier, mais au moins, tout le monde a accepté le truc. Et ensuite, si on veut revoir l'algorithme, peut-être qu'on peut le repasser en revue, etc. Mais c'est une chose qui peut fonctionner, je crois.
C'est-à-dire que l'État pourrait ajouter de nouvelles règles à l'algorithme.
Je ne sais pas si c'est forcément aussi direct, mais peut-être que l'État peut noter, ou l'État ou la société civile peut dire, écoutez, là, il y a quand même ça ou ça, ou peut-être que Facebook propose des changements pour telle et telle raison, mais ils doivent être, j'imagine, validés par l'État. Alors oui, ça simplifie les choses, mais quand c'est l'État qui dit, vous devez gérer votre bordel et faire en sorte qu'on n'ait pas cette océan de désinformation, et ben l'État a aussi une responsabilité d'approuver le truc. Tu peux pas juste dire fix it et pas, sans dire ce que ça veut dire de dire fix it, quoi.
Ah, voilà, ça peut être intéressant, je sais pas, pour voir comment ça fonctionne aussi.
C'est ça, je crois qu'on n'a pas encore vu la mise en place de ce système avec l'État français. Unique dans le monde, hein, si je ne m'abuse, à moins que je me trompe, mais je crois pas, c'est unique dans le monde, et je crois que c'est en cours, donc on verra ce que ça donne. Il y a un sujet dont j'étais pas certain qu'il s'agissait d'un sujet tech, c'était un petit peu le cas la semaine dernière avec le chantage à Jeff Bezos, là c'est encore Amazon, qui avait décidé de faire un nouveau QG à New York, et qui au final s'est retiré parce que un certain nombre d'activistes et de militants des environs de l'endroit où le QG devait être installé se sont plaints de plusieurs choses. D'une part, le truc le plus visible, c'est des rabais de taxes, enfin des annulations, pas des annulations, mais des réductions de taxes dont bénéficie Amazon, qui auraient été hyper importantes. Donc ça, c'est le truc le plus visible, et évidemment, il faut mentionner que c'est pas que, je sais plus combien il y avait, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, enfin un truc énorme. Non, c'était peut-être pas 1 milliard, bref. Il y avait énormément de taxes qu'ils n'auraient pas payées. Ça veut pas dire que ces taxes-là, tout à coup, sont disponibles pour en faire autre chose. Mais par contre, Amazon n'y viendra pas. Alors ça, c'est la vision un petit peu pro de cette affaire. La vision anti, c'est que bah oui, mais ça encourage les sociétés à ne venir que s'ils ont pas de taxes à payer, et au final bah nous on a oui, il y a plus d'activités parce que les gens viennent, mais on a moins de taxes pour faire vivre nos environnements, et en plus ça provoque une gentrification des quartiers où nous on vit vraiment, c'est-à-dire que oui, il y a les bureaux, oui, ça fait de l'emploi, mais c'est pas de l'emploi du boulanger du coin, c'est l'emploi d'un jeune diplômé qui vient d'une université californienne, par exemple, ou de la côte est, et qui va venir pendant 3 ans faire monter les prix des loyers parce qu'il est payé comme un prince, et puis il se barre parce qu'il a fait son burn-out, comme il le disait dans les Week in Tech, au bout de 4 ans, et nous, au final, les prix des des loyers, bah, ils continuent à augmenter parce qu'il y a 25 000 employés dans ce QG et ça nous détruit notre quartier. Donc,
un peu comme San Francisco avec les comme les salaires des ingénieurs qui font augmenter les tarifs, quoi.
C'est exactement ça. San Francisco a beaucoup souffert, s'est transformé et a souffert. Oui, les gens qui y habitaient avant, bah, ils peuvent plus y habiter. C'est un vrai, vrai problème. Bon, San Francisco concentre l'intégralité quasiment ou une grande majorité des grosses boîtes tech, mais il n'empêche, le même phénomène se reproduit ailleurs. D'autant plus que Amazon, on l'a vu quasiment au même moment, a fait 11 milliards de profits en 2018, de profits. On ne parle pas de revenus, de profits, et ne paye aucun impôt au niveau fédéral aux États-Unis parce qu'ils ont plein de réductions d'impôts pour telle et telle raison, quoi. Donc c'est un peu ajouté à ça. Donc bon, voilà, je le mentionne comme ça. Je ne sais pas si c'est une histoire tech parce que ça s'inscrit dans le. Si peut-être que l'angle tech, c'est que il y a une méfiance accrue des géants de la tech qui a commencé en Europe, donc nous on en est très familiers et on a vraiment l'habitude de ça, mais elle est en train de se diffuser de plus en plus. C'est une idée qui est en train de faire son chemin aux États-Unis et une ambiance presque qui est en train de faire son chemin aux États-Unis. Il y a 10 ans, ils auraient été accueillis à bras ouverts, je pense.
Ah, de petit à petit, c'est en train de se faire une place sur leur marché historique, cette idée des géants de la tech qui abusent un petit peu.
Exactement. Et c'est pas le seul exemple de ça. Il y en a plusieurs qu'on pourrait donner, enfin qu'on donne régulièrement. Et c'est l'idée de régulation pour réguler les gros géants de la tech est en train de faire son chemin aux États-Unis aussi. Beaucoup de gens ont dit le RGPD, il y a peut-être des trucs qui sont un petit peu pénibles ou un petit peu poussifs, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Donc, alors
il y en a beaucoup qui souhaitent une version américaine du RGPD.
Exactement.
Apple en premier.
Oui, Apple qui bénéficie. D'ailleurs, quand on parlait des services d'Apple, ils peuvent aussi mettre ça en avant. Ils vous disent, nous, on vous fournit tous ces services pour un prix X par mois et on n'abuse pas de votre vie privée, quoi. Peut-être. Dernière petite news. Yes We Hack a levé 4 millions d'euros. Alors Yes We Hack, on en parlait il y a 2 semaines, c'est la société dont notamment notre ami Corben est à l'origine avec d'autres, qui a implémenté une plateforme de bug bounty. Encore une fois, allez écouter il y a 2 semaines si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je voulais le mentionner parce que on en parle dans l'émission il y a 2 semaines et 1 semaine plus tard, ils annoncent avoir levé 4 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je le mentionne juste comme ça. Voilà.
Tant mieux pour Corben.
Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et puis surtout que l'idée de Yes We Hack est brillante. Donc, c'est quelque chose de français. Alors, sur l'échelle de la Silicon Valley, 4 millions, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est, on l'espère, une première levée et ça pourra leur permettre d'aller plus loin et de développer cette plateforme de manière avec beaucoup d'ambition, quoi. En parlant de chiffres, Netflix a 5 millions d'abonnés en France. C'est quand même assez monumental, hein, 5 millions d'abonnés.
Je crois qu'ils viennent de dépasser Canal+ avec ça, d'ailleurs. Dépasser Canal+ avec ça, ouais. Canal+ était encore devant et maintenant Netflix vient de passer. Bah, c'est les tout premiers en France.
Ouais. Combien ça coûte Canal+ encore aujourd'hui?
Ah, je sais plus, moi ça fait très longtemps, que plus de 10 ans que je suis plus abonné à Canal+. Ouais.
Ça doit être, moi je me souviens que c'était genre 30 euros, quelque chose comme ça.
Netflix c'est hallucinant, c'est hallucinant, ils ont une super progression en France. Et d'ailleurs, il y a les chaînes françaises qui s'inquiètent un petit peu et qui sont en train de créer leur propre Netflix, tu sais, Salto.
Oui, tout à fait. Oui. Allô?
Oui.
Tu disais oui, Salto, effectivement, qu'ils sont en train d'essayer de faire concurrence, mais c'est vrai que maintenant, c'est encore une fois l'importance d'y aller tôt, d'y aller vraiment aussi vite que possible, quoi. Parce que, bon. Et d'ailleurs, effectivement, Canal+, l'abonnement, le plus simple, c'est 20 euros. Canal+ et les chaînes ciné-séries, 30 euros. Canal+ et les chaînes sport. Alors, le sport, c'est toujours un peu plus cher, mais 39 euros. Tout ça, c'est pendant quelques temps. Je ne sais pas combien de temps. Ou alors, ça devient plus cher. Le prix normal est 10 euros plus cher pour les deux abonnements suivants. Peut-être qu'ils ont systématiquement baisser le tarif. Et il y a aussi Start by Canal, tiens. Faites-vous plaisir avec de grandes chaînes et des milliers de programmes à regarder seul ou en famille. De grandes chaînes en live et en replay pour toute la famille, c'est 10 euros. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais bon, effectivement, dans l'esprit des gens, si tu te dis « je veux de la distraction et des séries de qualité », c'est 30 euros par mois ou 10 euros avec Netflix, qui en plus a sans doute des séries de meilleure qualité.
Ouais, ils ont un catalogue énorme maintenant, au fur et à mesure d'investir là. Ils sont constitués un catalogue et qui n'a pas d'équivalence pour l'instant au niveau mondial.
Exactement, ouais. Et bon, c'est encore une fois l'importance d'arriver plus tôt et le fait de ne plus être avec un pied dans l'ancien monde, parce que le gros problème de Netflix, c'est qu'ils sont à la télé, ils ont une chaîne, ils ont une rédaction, ils ont des frais qui sont beaucoup plus importants que une société comme Netflix, des frais d'une nature différente, quoi. Enfin bref, bon, Netflix dépasse Canal+ en France. Moi, j'ai du mal, comme je le dis souvent, à me sentir triste pour Canal, quoi. Mais bon.
Ah, moi non plus, je me sens pas triste. Après, bon, ils l'ont vu arriver
dommage,
pendant de nombreuses années, ils ne sont pas bougés. Et voilà, maintenant que c'est comme ça.
Ouais. Le dilemme du créateur, ou le dilemme du. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est du créateur. Quand tu es déjà en place, il faut que tu cannibalises ton business existant pour être en place quand le suivant arrivera. Et si tu ne le fais pas, quand tu te réveilles, il est trop tard. C'est pour ça que je renouvelle systématiquement mon podcast et je fais des émissions de qualité avec des business models intéressants, n'est-ce pas ? Deux autres petites choses, un petit peu gaming. Apex Legends, qui est un jeu qui a explosé il y a deux semaines, qui est dans le genre du Battle Royale, a déjà atteint en une semaine 25 millions de joueurs, ce qui est invraisemblable. Le jeu dont vous avez sans doute entendu parler, même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, c'est Fortnite, qui lui était sorti en 2017, la version Battle Royale, et c'était le plus gros succès Fortnite, incroyable, avec une progression de malade. Il avait mis 3 mois à atteindre les 25 millions de joueurs. Rendez-vous compte, 3 mois,
c'est
une
fou
semaine.
La progression, c'est dingue.
C'est invraisemblable. Alors évidemment, il faut voir si ça va continuer pour Apex Legends, s'ils vont arriver sur mobile, s'ils vont aller en Chine, s'ils vont pour continuer, parce qu'aujourd'hui, Fortnite a quelque chose comme 200 ou 300 millions de joueurs, dont une majorité sur mobile d'ailleurs. Mais il n'empêche, pour un démarrage, tout un tas de facteurs, allez écouter le rendez-vous jeu si vous voulez avoir les détails de la campagne marketing brillante que EA et Respawn ont mis en place. Mais c'est sans doute un jeu dont vous entendrez parler ici et là. C'est Apex Legends et il faut avouer que c'est une belle réussite.
Je crois qu'ils ont prévu aussi, EA a parlé de faire une version mobile aussi.
Alors ça, c'est une spéculation. Moi, je spécule sur ce sujet. C'est un petit peu plus compliqué de faire la version mobile pour tout un tas de raisons, mais je serais très surpris qu'il n'y ait pas une version mobile à un moment. D'une manière ou d'une autre. Un truc qui s'appelle Apex Legends sur mobile, le marché est tellement plus grand sur mobile que sur PC et console. Je mentionnais Fortnite. Fortnite a, je lance un chiffre au hasard, mais approximatif, disons 50 millions de joueurs sur PC et console, et 150 ou 250 millions sur mobile. C'est genre 3 ou 4 fois plus sur mobile que sur console. Donc c'est évidemment difficile de résister à l'alléchante population des mobiles, quoi. Et à propos de Fortnite, enfin, une question de copyright. Vous savez qu'il y a l'une des choses qui est disponible dans le jeu Fortnite, c'est des danses. Et les danses, les personnages qu'on joue peuvent se lancer dans des danses par moment. Elles sont inspirées ou copiées de danses existantes. Vous vous souvenez du le prince de Bel-Air, le frère
Carlton,
de Will Smith. Voilà, Carlton a sa Carlton Dance, qui est une des danses les plus emblématiques de Fortnite aujourd'hui. Voyant le succès du jeu l'année dernière, il a essayé de copyrighter sa danse que clairement lui il a créée. Et il a deux jours plus tard lancé un procès contre Epic, le développeur de Fortnite, pour dire vous avez utilisé ma danse sans me payer. Ce qui est une question possiblement légitime, hein, pourquoi pas, c'est lui qui a créé la danse. Alors il se trouve que le Copyright Office aux États-Unis a dit que la danse en question, qui était composée de 3 ou 4 mouvements, n'était pas une chorégraphie. Et que les danses n'étaient pas copyrightables, une chorégraphie aurait pu l'être, et l'est, je crois, si je ne me trompe pas, mais en l'occurrence, cette danse-là, qui est 3 mouvements, ne constitue pas une chorégraphie et donc n'est pas copyrightable. Donc, a priori, il n'était pas le seul, l'acteur qui joue Carlton, n'était pas le seul à s'être engouffré dans la brèche contre Epic avec des procès sur les questions de danse. A priori, ça veut dire que le Copyright Office américain calme le jeu pour tout le monde. Et c'est genre,
un précédent en faveur d'Epic Games, quoi.
C'est ça. C'est pas complètement certain, mais a priori, ça calme quand même le jeu. Donc voilà pour notre petit compte-rendu des sujets tech de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Avant de se quitter, évidemment, Maxime, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur le net ? Dis-nous tout.
Alors, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Mobile Addict, tout attaché, et sur le site iPhone.fr sans eux. Voilà, on y parle beaucoup de produits Apple et d'actualités tech.
Tout à fait. Une de mes sources régulières qui est inclus dans mon lecteur de flux RSS pour ma veille d'ailleurs, iPhone.fr, comme VIPad.fr qui lui est beaucoup moins actif ces derniers temps. Je me demande si vous n'avez pas vu une chute des visites du site et donc vous poussez moins de news sur VIPad, j'ai l'impression.
Il y a matière à parler avec les nouveaux iPad Pro et tout, le fait de remplacer l'ordinateur, enfin bref, peut-être que ça va changer, on ne sait jamais.
Et donc, pour ma part, si vous voulez par exemple connaître les détails de ma veille, vous pouvez devenir Patreon, sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez donc soutenir l'émission au tarif que vous voulez, pour le nombre d'épisodes que vous voulez, disons, faites-en au moins 2, 3, 4, allez. Et vous aurez accès, tout le monde a accès au flux RSS, donc au podcast privé des Patreons. À $2, vous avez accès à ce formidable lieu de rencontre de la communauté qu'est le Slack. J'envoie les récompenses généralement à la fin du mois, après la première facturation. Donc, il y a plein de gens qui arrive régulièrement dans le Slack et il y a des nouveaux channels que j'ai créés qui semblent fonctionner pas mal, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais donc c'est sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez aussi parler de l'émission à vos amis, comme par exemple Jonathan 06400 qui a mis sur l'iTunes Store ce commentaire toujours génial avec 5 étoiles, ce podcast qui est toujours aussi bien même après les années qui passent, plein de sujets intéressants et qui force à réfléchir sur les différents points de vue, dire que j'ai commencé à écouter le podcast il y a déjà 8 ans. Continue comme ça, Patrick, avec un biceps. Merci à toi, Jonathan. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, que ça soit financièrement ou comme Jonathan ou d'autres qui parlent simplement de l'émission à leurs amis, à leurs collègues. Si il y a des sujets dont vous pensez qu'il est important de les connaître, vous pouvez conseiller l'émission aux gens dont vous pensez que ça les intéresserait, tout simplement. Propager la bonne parole. Et si vous voulez me suivre, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Ou alors, pour commenter l'émission, comme toujours, sur frenchspin.fr. Et vous pouvez trouver aussi le rendez-vous jeu sur ce même site ou sur votre app de podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.